Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est 17h. À la une, une frappe israélienne à Gaza a fait 4 morts, dont 2 enfants. La situation se tend toujours au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a mené plusieurs frappes aériennes au Yémen, selon les Houthis soutenus par l'Iran. Comment doit-on interpréter ce retour des violences ? On y répond dans quelques instants. La Fédération française de football ne soutient plus Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA. C'est Philippe Diallo, le président de la Fédération française, qui l'a annoncé. On vous explique tout ça en détail. L'équipe de France féminine de basket l'a fait, les Bleus qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde en battant la Chine. Le massacre de la population gazaoui continue dans l'enclave malgré le cessez-le-feu mis en place il y a bientôt un an. Un couple et ses 2 enfants ont été tués la nuit dernière par une frappe israélienne. Ces jeunes victimes viennent s'ajouter à la longue liste des plus de 21 000 enfants tués selon l'ONU par les forces israéliennes depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, aujourd'hui pris le contrôle de la ville de Mohra sur la mer Rouge. Une percée notable dans leur progression vers le stratégique détroit de Bab el-Mandeb depuis la reprise des combats au Yémen. Des combats qui font craindre, inagile, le retour de la guerre totale dans le pays. 4 ans après la trêve de 2000.
Oui, c'est une information confirmée par une source militaire au sein des forces gouvernementales. Les rebelles Houthis sont entrés à Mohra, située à 70 km au nord du détroit de Bab el-Mandeb. Des témoins ont dit avoir vu des combattants Houthis entrer dans cette ville portuaire en scandant « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Cette bataille oppose donc les rebelles Houthis qui contrôlent le nord du pays et les forces du gouvernement reconnues par la communauté internationale basée dans le sud. Et c'est une percée importante car les Houthis mènent depuis plusieurs jours une offensive terrestre accompagnée de tirs de roquettes et de frappes de drones. Leur objectif, c'est s'emparer du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, verrou méridional de la mer Rouge. En 2025, environ 12% du commerce mondial transitait par ce détroit. Mais ce passage qui relie l'Asie à l'Europe via la mer Rouge et le canal de Suez a gagné en importance depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Avec le verrouillage par l'Iran du détroit d'Ormuz. L'Arabie Saoudite, deuxième producteur mondial de pétrole, y a redirigé une partie de ses exportations. Mais les Houthis veulent contrer les ambitions saoudiennes. Depuis le 20 juillet, ils disent vouloir imposer un blocus maritime à l'Arabie Saoudite, alliée des forces gouvernementales yéménites et des États-Unis. Les Houthis n'en ont pas encore les moyens. Pour l'instant, les rebelles ne détiennent aucune zone donnant directement sur le détroit. Mais ils avancent. Cette bataille pour Bab el-Mandeb a un coût humain important. Le Yémen n'avait pas connu un bilan aussi lourd depuis des années. Depuis la semaine dernière, les combats ont fait plus de 500 morts pour la plupart des combattants, avec le risque d'un retour au conflit total. Une reprise des combats qui a aussi des conséquences humanitaires terribles. Elle a contraint plus de 20 000 personnes à fuir leur domicile, selon l'Organisation internationale pour les migrations, alors même que la situation humanitaire était déjà critique dans le pays. Selon l'ONU, quelques 22,3 millions de personnes, soit près des 2/3 de la population, avaient besoin d'aide humanitaire en 2025.
Merci beaucoup, Inagil. Tous les moyens sont bons pour sauver les élections. Donald Trump a fait miroiter hier à ses partisans un dividende de 5 000 $ par adulte en cas de victoire du Parti républicain lors des élections de mi-mandat, et ce, alors que les sondages annoncent une possible bascule démocrate au Congrès. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats Arabes Unis. On l'a appris aujourd'hui. Une annonce de la présidence algérienne. Dans le même temps, l'Allemagne et les Émirats Arabes Unis doivent officialiser aujourd'hui et demain une 40aine d'accords, notamment dans l'énergie et les nouvelles technologies, selon Abu Dhabi, à l'occasion d'une visite du président émirati. Allez, direction la France avec cette déclaration. L'égalité femmes-hommes doit être une réalité. Propos signé Samia Badat Karam, la secrétaire nationale des Républicains chargée de l'égalité femmes-hommes et première adjointe au maire du 16e arrondissement de Paris. On l'écoute.
L'égalité femmes-hommes, elle ne doit plus être un slogan, elle doit être une réalité. Et pour moi, la première urgence, c'est l'égalité économique. À travail égal, salaire égal. Et ça, en France, c'est un fait. Malheureusement, ça n'est toujours pas le cas. Et donc, pour moi, ça doit être vraiment la priorité. La deuxième priorité, on en parle beaucoup, mais ce n'est toujours pas quelque chose sur lequel on peut se réjouir, c'est les violences faites aux femmes. Vous avez vu, il y a eu l'affaire Liana, il y a trop d'affaires dont je ne citerai pas les noms, le nom parce qu'il y en a trop, mais protéger les femmes et notamment protéger aussi les violences intrafamiliales, les violences conjugales et sexuelles au sein des familles, mais également dans l'espace public, doit être notre priorité. Et c'est un sujet sur lequel on travaille aussi au sein du Parti Les Républicains. Et puis un troisième sujet qui m'est cher, sur lequel j'interviens beaucoup, c'est l'éducation des filles, l'éducation des femmes. Expliquer aux femmes qu'elles ne seront jamais libres et indépendantes si elles n'ont pas un niveau d'études et une indépendance financière. Donc pour moi, c'est vraiment les trois points fondamentaux de l'égalité femmes-hommes sur lesquels, en France, on doit encore travailler.
Vous avez évoqué, Samia Badat Karam, l'affaire Liana. Depuis cette affaire, une prise de conscience a eu lieu en France. Des rassemblements ont lieu chaque lundi, place Vendôme, devant le ministère de la Justice, notamment pour mettre en lumière les violences faites aux enfants. Des députés prônent pour une loi intégrale. Vous, vous y seriez favorable? Il faut agir et il faut que ce soit un thème phare de la campagne présidentielle.
La protection de nos enfants doit être la priorité. J'ai entendu, comme beaucoup de Françaises et de Français, j'étais scandalisée lorsque j'ai entendu que d'un point de vue judiciaire, on était en retard parce qu'il y avait d'autres priorités. Alors, évidemment que le narcotrafic et la lutte contre la radicalisation, ce sont des choses très importantes, mais comment ne pas mettre en priorité numéro un la protection de nos enfants? La parole des enfants doit être entendue. Il y a eu un MeToo pour les violences faites aux femmes. Il doit y avoir également une priorité, mais la priorité avec un grand L, sur la parole des enfants. Il n'est pas acceptable que dans un pays qui se dit développé comme la France, il y ait autant de violences et notamment sexuelles vis-à-vis des enfants, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit au sein des familles, que ce soit au sein de nos propres services d'aide sociale à l'enfance. Pour moi, ça doit être la priorité absolue. Tous les moyens doivent être mis sur la protection de nos enfants.
Il faut donc que ce soit un thème phare de cette campagne, hein, c'est ce que vous nous dites.
Ça doit être le thème phare. Alors là, on parle de loi intégrale. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut un dispositif. Des crimes sexuels contre les enfants ne peuvent plus être prescrits. Ça n'est pas possible. C'est vraiment la priorité et je pense que moi, en tant que mère de famille, tous les Françaises et tous les Français ne pourront qu'être favorables à cette priorité.
À noter que, je le rappelle, Samia Badat Karam sera l'invitée de Pluriel, votre émission ce soir à partir de 19h. Dans le reste de l'actualité, une enseignante menacée de décapitation par un parent d'élève près de Toulouse. L'homme a été placé en garde à vue. Un père de famille a menacé cette enseignante. Ce dernier a été placé en garde à vue. Il doit être jugé aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale dénonce des faits d'une extrême gravité. En pleine à Paris Design Week, l'une des expositions du moment se tient à Lafayette Anticipation sous le titre La vie des formes. Jusqu'au 13 septembre, elle réunit des pièces nées des résidences de design menées depuis 5 ans à Aloua, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, aux côtés d'œuvres de la collection de la Fondation. Pour comprendre les enjeux de ce rapprochement culturel, nous avons interrogé Simon Garcia, directeur du développement culturel de l'Agence française.
Alors ce qu'on essaie de faire passer avec cette exposition, c'est la démonstration ou l'idée que Aloula est un véritable laboratoire de la création contemporaine et un laboratoire très particulier puisque Aloula, c'est d'abord un territoire avec une richesse naturelle, des paysages éblouissants, mais aussi avec une histoire très ancienne et très riche au cœur de l'Arabie Saoudite et qui aujourd'hui est en train de devenir véritablement un carrefour de création culturelle extrêmement important, un laboratoire où justement se créent de nouvelles formes qui répondent ou qui font écho à ce patrimoine et à cette dimension naturelle très riche et très ancienne. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on fait des résidences de design à Aloula. On a accueilli à peu près 60 artistes et designers depuis 5 années dans les résidences qu'on organise là-bas en partenariat avec la Commission royale pour Aloula. Et de toutes ces résidences sont nées énormément d'œuvres, d'objets qui sont une innovation et d'une créativité très très forte. Et c'est ça qu'on essaie de montrer au public parisien aujourd'hui. Et en fait, on essaie d'amener à la fois le monde à Lula au travers de ses résidences et à Lula au monde au travers de ses expositions, puisqu'on essaie de faire connaître ce qui se passe à Lula, non pas seulement, mais évidemment son patrimoine et le lieu comme une destination qui est touristique très forte, mais aussi faire la démonstration que aujourd'hui, Lula est un laboratoire de création incontournable pour la jeune création d'aujourd'hui.
Les propos recueillis par Radio Orient. La Fédération française de football a décidé de retirer son soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, à quelques mois de l'élection pour la présidence de l'instance mondiale. Les précisions avec vous, Salma Dakhlaoui.
Oui, la Fédération française de football tourne le dos à Gianni Infantino. La Fédération française de football a décidé ce jeudi de retirer son soutien au président de la FIFA, qui prépare un nouveau mandat à la tête de l'instance mondiale du football en mars 2027. Une décision qui marque une rupture. La France soutenait pourtant Gianni Infantino depuis son élection en 2016. Mais les relations se sont progressivement tendues, notamment autour de la gouvernance de la FIFA et de plusieurs projets portés par son président. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, souhaite désormais davantage de transparence et de démocratie au sein de l'instance internationale. Ce retrait intervient alors que Gianni Infantino est de plus en plus contesté en Europe. Plusieurs fédérations ont déjà pris leur distance avec lui, comme la Norvège, l'Italie ou encore l'Allemagne. L'élection du prochain président de la FIFA est prévue le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc. Gianni Infantino reste pour l'instant candidat à sa propre succession.
Merci beaucoup Salma Dakhlaoui pour toutes ces précisions. En football, la suite de la première journée de la Ligue des Champions. Des matchs ce soir à 18h45, Fenerbahçe à AS Roma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk, Bayern Munich, Bodo Glimt, comme contre les Allemands de Leipzig, et ou encore Manchester United contre Sabah Bakou, le club d'Azerbaïdjan, et évidemment les Lensois qui se déplacent du côté de Prague pour affronter le Slavia. Pour terminer, une page basketball. La malédiction est enfin levée pour l'équipe féminine de basket après plus de 50 ans d'attente. Les Bleus ont franchi le cap des quarts de finale de la Coupe du Monde. Elle se passe actuellement en Allemagne. Les Françaises se sont imposées face à la Chine et décrochent leur billet, Selma, pour le dernier carré.
Oui, elles l'ont fait. Basketteuses françaises ont franchi le cap des quarts de finale en dominant la Chine 90-61. Un succès important pour les Bleus qui restaient sur une élimination face aux Chinoises à ce même stade de la compétition en 2022. À l'époque, la France s'était inclinée 85-71. Cette fois-ci, les Françaises ont su prendre leur revanche et surtout briser une malédiction qui durait depuis plus de 50 ans. Il fallait remonter à 1953 pour voir la France atteindre le dernier carré d'un mondial et remporter la médaille de bronze. Face à une équipe chinoise vice-championne du monde en titre, les Bleus ont pu compter sur leur collectif et leur adresse pour faire la différence. Marine Johannes a notamment contribué à cette belle victoire avec 15 points, 3 rebonds et 7 passes décisives. Elles poursuivent désormais leur route dans cette Coupe du Monde avec une place en demi-finale et avec elles l'espoir de décrocher une deuxième médaille mondiale dans l'histoire du basket féminin français.
Merci beaucoup Salma Dakhlaoui pour toutes ces précisions. Radio Orient, il est 17h13, c'est la fin de votre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 18h. À tout à l'heure.